Donc je vais essayer d'y aller. En fait, c'est sur la chaîne de la mousse, en fait, dans la Talmud. Donc je vais la faire rapidement, parce qu'en fait, les textes, en fait, il n'y a pas les textes. Et vous les avez reçus, en fait, par email, etc. Donc en fait, vous pouvez y avoir accès. Hein. C'est pas... Moi-même, je pourrais essayer, en fait, de... Je pourrais essayer de le faire, mais bon. En fait, pour commencer l'histoire, en fait, c'est tout. Cette idée, j'ai une intuition encore en écoutant Rothstein dans la conférence quand il a parlé sur le jeûne comme étant un acte politique. Mais après ça, sur Rothstein aussi, il en a parlé, etc. Et en fait, parce que ça m'a fait un titre dans ma tête. Et le titre est le suivant, c'est-à-dire qu'en fait, le Talmud, à chaque fois, les hommes, ils disaient, voilà, mais en fait, dans le Talmud, on parle pas de ça, etc. Et en fait, ça m'a fait un titre, parce qu'en réalité, dans le Talmud, il y a un livre qui s'appelle la Megillat Ta'anit. Ça veut dire Megillat Ta'anit, ça veut dire le rouleau des jeunes. D'accord? Or, pour moi, ça fait encore un deuxième titre, c'est parce que de la même manière où, en fait, on dit dans le Talmud que la Megillat Esther ne sera jamais annulée, on nous dit que la Megillat Ta'anit, c'est justement le Talmud dans Rosh Hashanah, il est annulé. Batla Megillat Ta'anit, c'est un gros truc, c'est une grande souria, c'est une petite souria, une moyenne souria, un sujet dans le Talmud, qui va savoir est-ce que, en fait, ce que vous avez dans Rosh Hashanah, normalement dans les textes, donc moi je vais essayer aussi d'aller les regarder, comme ça, je vais essayer de voir. En tout cas, la Gemara dit en fait, je vais essayer de faire dans les mots une seconde, je vais essayer de.
Tu veux sur téléphone, ça te va?
Non, j'ai pas de téléphone, j'ai pas.
Non, mais moi j'ai les. Ça te va? Comme ça?
Ah, il arrive. Donc en fait, simplement, non. Et or, cette Megillat, bon, je m'explique, donc cette Megillat Ta'anit, qui est en fait un peu mentionnée dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, page 19b, en fait, c'est vraiment le sujet duquel parle Dani Trom, c'est en fait ces 10 jours. Sur lesquels il y avait eu des décrets dans lesquels on devait les commémorer en ne faisant pas de jeûne ces jours-là ou en ne faisant pas d'éloges mortuaires si quelqu'un mourait ces jours-là en souvenir de miracles qui étaient arrivés ou de bons et pas de miracles en réalité mais d'événements positifs qui étaient arrivés. Or ces événements positifs ils ont toujours eu lieu en fait au début de la période du deuxième temple ou même avant. Et en fait, c'est toujours, ça commémore toujours, en fait, des actes de Chadlanout, c'est-à-dire où il y a un intermédiaire qui est venu parler au gouvernement, qu'il soit romain, qu'il soit grec, qu'il soit un tel, et il a réussi à avoir gain de cause sur des requêtes que les juifs faisaient. Donc il y a tout, c'est traduit sur Sepharia, vous avez la traduction en anglais, etc., c'est consultable, etc. Vous êtes dans Wikipédia, vous avez un article qui vous dit qui les a écrits, de quand ça date, etc. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le Talmud dans Rajana, il dit en fait que ce rouleau, il a été annulé. Donc déjà, même la terminologie de Megillah appliquée à un livre de la Mishnah, c'est excessivement bizarre, c'est excessivement rare. Alors c'est vrai qu'on peut dire qu'on a utilisé cette terminologie de Megillat Ta'anit pour l'opposer à la Maseret Ta'anit qui est le traité des jeunes. C'est possible, mais quand même, on aurait pu dire autre chose. On aurait pu dire, je ne sais pas, on aurait pu d'abord trouver un autre nom. On aurait pu trouver, je sais pas, moi j'ai pas d'imagination, mais en fait le fait même d'avoir appelé ça Megillat Ta'anit, en fait c'est quelque chose qui est intéressant en soi. Donc je vais simplement lire en fait, tu vois, le passage du Talmud en fait de Rosh Hashanah qui parle de ça et qui va parler de l'annulation du traité Ta'anit et qui va donner un exemple de Chadlanout, mais il y en a plein en fait dans le traité là-bas. Donc je lis en fait, je lis en hébreu comme je peux. Mais ce qui m'est amené à Itad Besorta Taftal Yehudae. C'est-à-dire qu'on parle donc de certains jours qui sont dans ce rouleau de Ta'anit. Donc il dit que le 28e jour, je ne me rappelle plus maintenant de quoi c'est, je pense que c'est de Nissan. Je jette au hasard, je m'en rappelle. Adar, pendant le 28e jour de Adar, il y a une bonne nouvelle qui est arrivée aux Juifs en disant qu'ils ont pas, ils pourraient continuer à observer la Torah. Pourquoi? Chez Gazan, Malchut Gezerah, Shelo Yaskou Batorah. C'est-à-dire, puisque la royauté, c'est-à-dire, si l'Empire romain avait fait un décret comme quoi ils n'avaient pas le droit de s'occuper de la Torah, c'est-à-dire de l'abandonner la Torah, mais Shelo Yamoulou Benéen, et qu'ils ne fassent pas la Brit Mila, la circoncision, mais chez Hayou Shabbatot, et qu'en fait ils devaient aussi profaner le Shabbat, Marsa Yehuda ben Shamoua ben Haverav, Kafre Yehuda, le fils de Shamoua et ses amis, Alchou ben Alchou et Sami Matronita Ahat, ils ont pris un conseil d'une matronita, ça veut dire une matrone, c'est-à-dire a priori c'est une femme importante, on va dire, qui avait un pouvoir au gouvernement, le 9h10, qui est très fréquent à l'époque. Il dit, c'est quand le Gébelé Romu Metsuinatsla, où tous les dignitaires de l'Empire romain, ils allaient chez elle. Donc ils lui ont demandé conseil. Amralaem, Bohu, Vafkinu, Valaila. Il leur a dit, si vous voulez faire une démonstration, ça veut dire, comment dire, en français, en anglais, une démonstration, comment dire en français, une manifestation, donc une Afghana, comment dire, faites-le la nuit. Alkhou, Vafkinu, Valaila. Ils sont venus, ils ont fait la manifestation la nuit. Amou, Ishamaïl, ils ont dit par le ciel. Alors, nous ne sommes pas vos frères, mais l'obéné avéra de Nahnou, nous ne sommes pas les enfants d'un même père, mais l'obéné Adam, l'obéné Mahat de Nahnou, n'avons-nous pas la même mère? Mamishtanou, Mikol, Uma, pourquoi est-ce que vous faites une différence entre nous et les autres nations, Vélachon, et les autres peuples? Chatem Gozri, Malenou, Gezerot, Kachot, et vous faites des décrets durs sur nous. Alors, oublie-t-on. Donc, quand cette manifestation, elle a marché, et ils ont annulé le décret. Votre Yom Asou Yom Tov. Donc ce jour-là, ils l'ont commémoré comme un jour de fête. Bon, la Gemara, elle était en train de discuter sur l'idée de est-ce que le rouleau il a été annulé ou pas. Donc la Gemara dit Veïs al-Kadadar, Matlam, Gilat, Ta'anit, Kamaita, Bitul, Ahalaita, Mosifin. C'est-à-dire, si on dit que le traité de Ta'anit, c'est-à-dire le rouleau de Ta'anit, il a été annulé, comment est-ce qu'on peut rajouter des jours qui commémorent en fait ces jours de Shad Lanout, alors qu'on avait déjà annulé les anciens? Je ne rentre pas dans le texte, comme on n'a pas le texte, c'est qu'en plus je dois faire vite, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'histoire. Bref, tu vois, la Gemara d'abord, elle prouve que ça, parce que l'annulation, en fait, du rouleau de Ta'anit, ça aurait eu lieu lors de la destruction du temple. C'est-à-dire qu'en fait, on commémorait, en fait, tous ces jours où la chaîne de la Noude, elle avait eu raison, elle avait eu un impact, en fait, sur le gouvernement, tant que le deuxième temple était, en fait, existant. Une fois que le deuxième temple, il aurait été, en fait, détruit, on aurait arrêté la commémoration. C'est ça l'idée du Talmud. Donc la Gemara, elle essaie de prouver en fait que toute cette histoire-là a eu lieu après la destruction du temple. Bref, c'est pour ça que je saute à la conclusion. Donc la Gemara, elle va dire un truc, elle dit la halakha est bitlou, ça veut dire la halakha est qu'on a annulé en fait le rouleau des Ta'anit, des jeunes. Mais la Gemara dit mais c'est difficile, cacher avec Kreta et Kreta, puisqu'on a un autre principe qui nous dit que en fait le rouleau des jeunes n'a pas été annulé. La Gemara dit lo kasha, kan de Hanouka ou Purim, kan bishar yomé. C'est-à-dire que les deux seules commémorations qu'on a gardées et qui étaient en fait dans le rouleau des jeunes, c'est Hanouka et Purim, et les autres commémorations qui commémoraient des actes de Shadlanout, etc., elles ont été annulées. Ça, c'est ce que le Talmud dit. Maintenant, voilà, donc maintenant je vais simplement rentrer dans un truc, tu vois, mais voilà, de l'arabe pour expliquer en fait le point derrière. Il y a un problème. De Halakha qui est intéressant. Puisque, en fait, si on regarde, en fait, donc, si on lit le Talmud, on a l'impression, en fait, que Hanouka et Purim, ça fait partie, en fait, des jours de la Megillah, du boulot des jeunes, qui n'ont pas été annulés. C'est pareil comme ça. Donc, le problème, il est le suivant. C'est qu'en fait, si on regarde, en fait, dans le rouleau des jeunes, il y a un jour, qui est, en fait, le 13 Adar, qui est un jour qui fait partie, en fait, des jours de célébration. Puisque ça s'appelle Yom Nicanor. Enfin, non, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait Nicanor, etc. Je me rappelle même plus maintenant, la vérité, j'ai oublié l'histoire, mais enfin, Nicanor, c'est un général, bien sûr, mais il y a eu une histoire avec lui, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe dans la fin de l'histoire. Mais en tous les cas, il y a eu un événement de Shadlanout qui a eu lieu, et qui, en fait, qui fait que les Juifs, en fait, ils ont été sauvés, donc, en fait, on ne pouvait pas jeûner le jour du 13 Adar. Or, il se trouve que le jour du 13 Adar, c'est le jour du jeûne d'Esther. Donc la question que les commentateurs ils se demandent, ils se disent, le Ritva et plein d'autres commentateurs, ils se disent, mais comment est-ce que donc en fait on peut faire le jour de jeûne si en fait pendant toute la période du Second Temple, en fait le jour du jeûne d'Esther, ça veut dire le traité de Ta'anit n'était pas annulé, il a été annulé qu'à la destruction du Temple, donc comment ça se fait que pendant toute la période du Deuxième Temple, comment ils faisaient pour faire le jeûne d'Esther? Or on sait que le 13 Adar, c'est un jour de la Megillat Ta'anit, le Yom Nicanor. Sur ça, le Ritva il va répondre une réponse, et pour moi, on a vu que je vais utiliser cette réponse pour l'extrapoler et dire peut-être une idée pour un peu. C'est-à-dire vraiment où là, j'en demande le sujet du rapport à la politique en exil, etc. Donc, le Ritva il va dire la réponse suivante, il dit c'est évident, en fait, que le jour de Jeûne d'Esther, il ramène des preuves, ça veut dire de Masechet Sofrim, ça veut dire c'est un traité de Mishnah annexe, etc., qui où c'est dit explicitement qu'en fait, pendant toute la période du Deuxième Temple, il ne faisait pas le Jeûne d'Esther le 13 Adar. Il faisait le jeûne du Kedaza, il le faisait, et d'abord il en faisait 3 jours, il ne le faisait pas un seul jour, il faisait 3 jours, un lundi, jeudi, un lundi, et il le faisait après Nissan. À cause, c'est ce que la Mishnah dans Sofrim a dit, sur le Matazarim, Shayum et Animotam Prudot, la Har Nissan, et Pneyom Nikanor et Chavera. C'est-à-dire qu'en fait, le minak, c'est-à-dire que le minak de base, c'est-à-dire qu'à l'époque du deuxième temple, ça veut dire à l'époque d'Esther, on va dire, quand Esther elle a institué, ou peut-être juste après, parce que je connais pas moi-même l'histoire de, je sais pas de vérifier l'histoire de Nicanor, quand est-ce que ça s'est passé par rapport à la Megillah d'Esther, est-ce que c'était juste avant, juste après, j'en sais rien. Mais ça veut dire en fait que l'instauration en fait du jeûne d'Esther, en fait, à l'époque, en tous les cas du deuxième temple, peut-être même depuis le début, c'était pas de le faire, comme on le sait aujourd'hui, le 13 Adar. C'était en fait de le faire après Nissan ou quelque chose comme ça. À cause justement qu'il fallait garder en fait la commémoration de ce jour de Nicanor, etc. Et le Ribbon a utilisé ça dans la Halakha. C'est pour ça en fait que si jamais en fait ça tombe un Shabbat, même si ça tombe un ça veut dire quand Pourim ça tombe un dimanche, en fait il dit pourquoi est-ce qu'on le repousse à jeudi d'avant, ce qui est très loin, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas en fait plus tôt. Il dit c'est parce qu'en fait la raison pour laquelle on peut le repousser tellement en avance et si loin en fait de la date réelle, c'est parce qu'en fait depuis le début le décret il n'avait pas été d'être fait sur le 13, il avait été en fait d'être fait à une autre date, et donc en fait la date d'éternité Esther, elle a été rajoutée une fois que le rouleau des jeûnes il a été annulé après les élections du deuxième temps. Moi, ce que c'est important, voilà, ça c'est simplement, on va dire, un truc de la Halakha, a priori, rien à voir avec la choucroute, mais pour moi, moi j'ai utilisé ça comme une idée en me disant que peut-être, puisqu'en fait, ça veut dire que quand en fait on a voulu annuler, en fait, ce traité d'Éternité, etc., qui commémorait tous ces jours de Chadlanout, etc., ça voulait dire en fait que dans l'histoire de la Chadlanout, il y avait comme une sorte d'avant et après la destruction du temple. C'est-à-dire que, avant la destruction du temple, en fait, la Chadlanout avait été vue comme quelque chose de positif, commémoré même d'une manière religieuse, etc. Mais que, ensuite, après la destruction du temple, même la fête de Pourim, elle a changé de signification. Puisqu'on a même changé la date du jeûne, etc. Non seulement on a arrêté, en fait, de commémorer les jours, en fait, qui commémoraient les événements de la Chadlanout, mais en plus, on a carrément, donc on a changé la date, on a changé même, à mon avis, la signification de Pourim. C'est-à-dire qu'il y avait Pourim avant la destruction du temple, qui était en fait, qui faisait partie en fait de la Megillat Ta'anit, qui faisait partie de ces jours qui commémoraient la Chadlanout, dans le sens de Danny Trump dans son livre. C'est-à-dire que c'était la signification de Pourim avant la destruction du temple, mais qu'après la destruction du temple, en changeant justement la date du jeûne d'Esther, on a voulu changer la signification de Pourim. C'est ça ce qui sort. Et, dans cette théorie, et la raison maintenant, ce que j'ai voulu dire par rapport à ça, c'est justement d'expliquer pourquoi en fait, qu'est-ce qui a changé. Et donc en fait, j'ai recherché en fait dans le Talmud des passages qui sont connus, mais en fait qui parlent justement d'exemple de la Chadlanout. Donc le premier exemple qui vient à la tête, bon, c'était aussi quand je préparais le cours, c'était déjà l'histoire d'une femme. Donc en fait, c'est l'histoire de Rabbi Shimon, de Rabbi Yochanan ben Zakkai, lors du siège de Jérusalem. C'est-à-dire que donc qui est un exemple de Chadlanout. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, pour expliquer en deux mots ce qui se passe, parce qu'on ne veut pas faire les textes, etc., que je vois que je fais très tard, etc. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est qu'il est, donc il se fait passer pour mort. C'est-à-dire qu'il veut négocier avec les Romains, qui assiègent Jérusalem, une reddition, ou enfin des avantages, des choses. Il veut négocier avec les Romains, un peu comme Esther, etc. Mais simplement, il ne peut pas le faire justement parce qu'il n'est pas officiellement reconnu comme Chadlan. Et donc, en fait, il doit se faire passer pour mort, et donc il se fait transporter dans un cercueil. Et bon, à la fin, il sort de son cercueil et il va voir, une fois qu'il a passé des lignes, et il va voir l'empereur général romain de l'époque, dont j'ai oublié le nom, Vespasien. Comment? Vespasien. Et donc en fait, bon, finalement, il négocie avec lui quelque chose. Et en fait, ce qu'il arrive à recevoir, bon, c'est connu, il reçoit en fait la ville de Yavné avec ses sages et qu'on ne détruise pas les descendants de David. Ça veut dire qu'on garde la famille royale. Et le Talmud, donc après ça, donc le Talmud lui demande, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé à ce qu'on ne détruise pas le temple? Et le Talmud dit que c'était une erreur. C'est-à-dire, dans deux réponses, il dit, il pensait que, en fait, s'il demandait ça, ça n'allait pas se passer. Mais le Talmud, au fond, il dit dans le deuxième, il dit que c'était une erreur. C'était Shgaga, Yotsu, Piachari. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a induit en erreur, ou en fait, il a fait une erreur. Et à mon avis, si le Talmud ramène cette histoire-là, de dire, voilà, Ça veut dire une des seuls exemples de Chadlanout qui sont marqués dans le Talmud, c'est celle-là. Moi, je pense que le Talmud, il voulait dire, en fait, qu'au niveau de la Chadlanout, il y a eu un point de basculement, justement, après la destruction du Temple, ou au moment de la destruction du Temple. C'est-à-dire que cette histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui marque, en fait, la fin de la commémoration des jours de Chadlanout, elle montre, voilà, il y a une erreur, il y a quelque chose, si tu veux, il y a quelque chose qui s'est passé ici, qui a été un point de rupture. Je ne sais pas pour quelle raison, encore une fois, j'ai fait simplement donner des trucs, mais qui ferait en fait que la Chadlanout, elle est plus commémorable de manière religieuse. Maintenant, c'est le premier. Pourquoi moi, à mon avis, les logiques derrière, ça serait de dire que tant qu'on avait un temple à préserver ou un temple à construire, la Chadlanout, elle pouvait avoir un sens. Mais à partir du moment où, en fait, on n'a plus de temple à préserver ou de temple à construire, la Chadlanout, elle devient, en fait, une action politique qui va favoriser des gens et léser d'autres. Et à ce moment-là, elle n'est plus justifiable. Moi, c'est l'idée que je sors. Je n'ai pas de preuves, etc. J'aurais voulu développer plus, mais on m'a dit de parler vite. De toute façon, j'aime bien parler vite. C'est qu'en fait, dans cette histoire-là, ce qui se passe, c'est que voilà, il sauve la famille de David, il sauve cela, il sauve les sages de Yamé, mais il n'arrive pas. Ça veut dire qu'il ne sauve pas les Juifs de Jérusalem qui vont être massacrés. Et donc, en fait, il y a une sorte de prise de parti qui est injustifiable, au fond, d'un point de vue moral. Parce que pourquoi tu as choisi cela? Pourquoi tu n'as pas choisi ça? Et le Talmud, d'une certaine manière, il récuse, ça veut dire, il critique Rabbi Yohanan ben Zakkai sur ça. Donc, ça, c'est là. Et à mon avis, c'est ça ce qui expliquerait le point de changement qui est entre l'annulation, en fait, du rouleau déjà. Maintenant, ce que je veux dire maintenant pour terminer avec un autre passage, donc de Chadlanout, qui arrive dans le Talmud, qui est un peu plus amusant. Et là encore, c'est-à-dire, donc le deuxième passage de Chadlanout qu'on retrouve, c'est dans le traité de l'Avodah Zarah, c'est avec en fait Rabbi Yehuda et en fait et Antonin. Ça veut dire avec toute cette histoire-là, etc. Là encore, c'est-à-dire, il n'y a pas de condamnation ni quoi que ce soit, mais moi je me suis simplement, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, bref, parce que bon, les textes, vous n'avez qu'à regarder les textes, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais disons, en fait, grosso modo, c'est qu'il semblerait qu'il y avait une grande amitié entre Rabbi Yehuda et Antonin, et que, en fait, Rabbi Yehuda, Antonin, en fait, il demande des conseils à Antonin pour comment prendre le pouvoir, comment affermir son autorité, etc. Et Rabbi Yehuda lui donne des conseils. Et moi, à mon avis aussi, c'est un autre point que le Talmud veut dire en filigrane, c'est que, en fait, et ça, c'est vraiment, c'est un petit peu le point qui est un petit peu dans le lien avec la Megillat Esther, c'est que quand Mordechai, il fait le choix de ne pas dénoncer les comploteurs, en fait, il fait un choix politique de donner le pouvoir à Ahasvéros versus un autre. Et en fait, on veut dire encore une fois que pour une raison ou pour une autre, c'était justifiable si, en fait, on voulait reconstruire le temple, ou quelque chose comme ça, mais ça devient non justifiable à partir du moment où, en fait, le temple n'est plus à reconstruire. À mon avis, il y a une chose. Puisque, en fait, on retrouve la même idée dans l'histoire de Rabbi Yohanan ben Zakkai, là-bas aussi. En fait, il dit à Vespasien, tu vas devenir empereur, etc., etc. Donc, en fait, si tu veux, il le nomme, il n'est pas simplement un, ça veut dire quelqu'un qui, comment dire, qui dialogue et qui fait, comment dire, je ne sais pas comment dire, qui fait un intermédiaire, qui sera un intermédiaire, etc. Ouais, et prédit, et puis il est actif dans l'histoire. Ça veut dire, et dans le cas de Rabbi Yehuda, c'est encore plus, Anassi, c'est encore plus évident qu'il est actif, qu'il donne des conseils et qu'il a une influence sur qui va avoir le pouvoir. Et à mon avis, c'est pas évident. Ça veut dire, moi je pense que le Talmud, quand il ramène ça, je sais pas si je peux dire positif ou pas positif, mais il y a encore une question d'arbitraire. C'est pourquoi, au nom du judaïsme, ou des juifs, ou etc., tu vas toi choisir qui est l'empereur à Rome, etc., parce que c'est ton ami ou pas ton ami. Et comment on peut justifier ça, en fait, moralement, par rapport au peuple d'Israël? Le point qui m'a le plus interpellé dans l'histoire de Rabbi Yehuda avec Anthony, c'est qu'en fait, on sait dans le Talmud qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Anassi, il y avait la famille. Ça veut dire, la famille, il le ramène à chaque fois que lui, il est excessivement riche, etc. Mais en fait, il distribuait l'argent. Il y avait une famille, et il y avait une difficulté, en fait, de redistribuer l'argent aux pauvres. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda Anassi, il essayait de donner simplement à ceux qui étaient érudits en Torah, etc. Il y avait des difficultés, en fait, on ne pouvait pas nourrir tout le monde. Or, à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est que Antonin, il propose de l'argent à Rabbi Yehuda Anassi. En disant, voilà, je te donne des chariots d'or en cachette. Puisqu'il les fait passer des chariots d'or recouverts de paille pour pas que les Romains sachent qu'en fait, il est en train de donner de l'argent aux Juifs. Et Rabbi Yehuda Anassi, il refuse l'argent. Pour moi, c'est un truc incroyable. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, il y avait Macron qui veut donner de l'argent au CRIF ou j'en sais rien, au CASIP. Et il dit, voilà, je vais vous faire passer de l'argent des impôts, etc., en cachette, et que le directeur du CASIP lui dit, non, je ne prends pas cet argent. Pourquoi de quel droit tu refuses? Comment? Mais pour moi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui interpelle, c'est-à-dire que mes amis, ils ramènent ça comme ça, en disant non, j'en ai pas besoin, que ce soit pour tes enfants, tes petits-enfants, si tu peux pas le prendre toi-même, etc. Et dit non, etc. Et finalement, ils refusent l'argent d'Antonin, alors qu'on est en fait dans des années de famine. Et Rabbi Danassi, c'est un des premiers, ça c'est un des plus grands donateurs, on va dire, c'est un des grandes fortunes qui permettait justement de nourrir des milliers ou des milliers de pauvres en Israël. Et c'est difficile en fait de comprendre ce refus. Voilà, moi donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait.
Quel est le commentaire sur ce refus?
Je ne sais pas. Franchement, il y a, bon, allez, je vais vous le dire. C'est parce que. C'est parce que bon, c'est un peu compliqué, mais ça veut dire que c'est pris en. Comment dire en, dans la, dans, ça veut dire en, mis en corollaire, par exemple, avec le fait que quand Jacob il rencontre Esav, et en fait, Jacob il refuse, Esav lui demande, lui propose une escorte. Il lui dit ouais, je vais t'escorter jusqu'à là-bas, etc. Et Jacob il refuse l'escorte. En disant, je veux pas profiter, je veux ni que tu m'aides, ni que tu m'attaques. Grosso modo. C'est-à-dire, comme en hébreu, il y a un proverbe qu'on apprend, qu'on dit au niveau de l'abeille, l'homme douf cher et l'homme auxter. C'est-à-dire, je veux pas prendre ton miel et je veux pas prendre non plus la morse, la piqûre. Et donc, c'est comme ça qu'il commande, en disant, tu vas me donner de l'argent, etc., mais qu'est-ce que je vais devoir donner en échange? Donc, en tous les cas, tout ça, c'est possible. Tout ça, en tous les cas, ça apparaît. Ça veut dire que dans la Megillat Tahanit, tant que le temps qu'il était là, la Chandanoute, elle est commémorée d'une manière religieuse et elle est commémorée d'une manière positive, etc. Et en fait, tout ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a un point de rupture qui arrive, en fait, au moment de l'histoire de Rabbi Yohanan ben Zakkai, où il y a une critique, en fait, ouverte, en fait, de la manière dont Rabbi Yohanan ben Zakkai, il a, en fait, dealé, en fait, avec cette chandanoute. Et ensuite, qui est entérimé par la halakha avec l'annulation, en fait, du rouleau de Tahanit, qui change la nature même de Pourim, qui avant faisait partie du Megillat Tahanit, et qui a été ensuite changé, puisqu'on change la date du jeûne d'Esther, etc. Et ce que je veux dire, et que voilà, et que ça se termine avec l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi qui refuse l'argent, en fait, de l'entraînement. Et voilà, mais c'est tout. Donc, moi, je pense voilà, que simplement, c'est pour vous deux. Je pense que voilà, il y a des sources à creuser, en fait, si vous voulez, dans le Talmud, sur Paris, sur la Chabanout, et ce rapport-là, et l'opposition avec le Megillat Esther. Je pense que c'est ça que j'allais dire. Je pense, j'en sais rien. Voilà.
Juste, M. Evin, qui voulait intervenir de ce moment.
Je crois que les débats de cet après-midi, pour la petite part à laquelle j'ai assisté, se ramènent à une question éternelle. Est-ce que le vrai et le bien peuvent coïncider, communiquer, en dehors du monothéisme juif? En réalité, 50 ans d'études juives et profanes, je suis ingénieur au contact de la matière et au contact des théories, m'ont convaincu qu'il n'y a aucun rapport entre le vrai, domaine de la science, et le bien, domaine de la Torah. Depuis les guerres de religion et l'âge classique, l'Occident s'obstine à vouloir tirer le bien du vrai. On appelle ça les sciences humaines. Ça a complètement foiré, sauf à donner une immense littérature qui pose d'excellentes questions, mais qui n'a toujours pas vaincu le malheur d'exister et toutes les violences qui règnent sur la Terre. Le judaïsme ne s'occupe absolument pas du vrai. On entend des juifs très pieux qui disent pourquoi on fait de la visite nucléaire, tout est dans le Talmud. Il y a sûrement une massérette dans laquelle il y a les lois les plus modernes, puisque c'est la vérité divine. Pas du tout. Le Talmud ne parle absolument pas de la vérité du monde. Il parle de la responsabilité de chaque être humain sur Terre, et de la manière de l'exercer selon la volonté de Dieu. Ce qui est en cause dans le Talmud, ce ne sont pas les vérités, c'est les rapports entre les hommes, entre les rapports des hommes avec eux-mêmes et les rapports des hommes avec l'absolu. Il y a toujours des relations. Le tout premier mot du Talmud, c'est « Mais et Matai ?» À partir de quelle heure? Donc, on s'occupe du bien, qui est un concept local, temporaire, mouvant, subjectif. Devant des auditoires naïfs, je dis, je pose deux questions à mon épouse. Première question, quelle heure est-il? Une question à laquelle on peut donner une réponse avec 8 chiffres significatifs. Au 9e, on a des doutes. Après, ça devient un peu mou. Mais l'heure, c'est très très bien connu. Deuxième question, est-ce que tu m'aimes toujours comme avant? Alors là, la science est complètement impuissante. Parce que dès que je pose la question, je ne suis plus le même. En entendant ma question, elle change. Sa réponse va me modifier. Or, la science ne peut travailler que sur des objets durs. Je voudrais vous montrer que la réponse de Shammai et la réponse de Hillel au candidat à la conversion, quand il est question de la Gemara, est la même. Je vous rappelle que ce candidat à la conversion dit « Faites de moi un juif pendant que je me tiens sur un pied ». Il commence par Shammai, qui lui tape dessus. Je vais revenir sur l'instrument qu'il utilisait pour lui taper dessus. Ensuite, il va voir Hillel, qui lui dit « Vas-y, lève une jambe », et il lui dit « Ne fais pas ça autrui, ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, ça c'est toute la Torah, maintenant tu sais où le mal, va et apprends ». Avec quoi Shammai a tapé sur son interlocuteur? Avec Amat Abinyan, avec une règle d'architecte. Et il lui donnait une formidable interprétation à sa question. Tu veux que je te donne en une phrase ce qu'est le judaïsme? Les choses qui marquent avec une phrase sont des pierres, c'est-à-dire des êtres sans conscience, des êtres sans communication. Ce que tu veux, c'est une mathématique à l'abri des théorèmes de Gödel pour te dire quelle est la vérité de la Torah. Tu veux du dur, de l'ultra-dur, de l'incontestable. C'est fascinant la vérité, ça fait l'unanimité. On fait une paix. L'idéal des Lumières est né à la suite des guerres de religion. On s'était entretués au nom de subjectivité. Maintenant, on va se mettre d'accord avec des lois. La table de multiplication n'est pas un sujet de controverse. On en est toujours là et ça a fait des ravages. Nous avons trouvé le boson de Higgs, mais des Syriens, des Afghans, des Éthiopiens et des malheureux marins se noient dans la Méditerranée. Et bien tout ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce que ça n'est pas du vrai, c'est du bien. Conclusion, il faut désespérer de se plier au snobisme de l'Occident qui est complètement fasciné par les vérités scientifiques. En réalité, l'Occident n'a jamais vaincu le problème de la morale. Le peuple juif, lui, sait que Dieu a deux visages. Un qui s'appelle Hachem, qui est le Dieu de la morale, et un qui s'appelle Elohim, créateur du monde, qui est le Dieu de la vérité. Et les Juifs, en se voilant la face, parce que le monde témoigne du contraire, disent, c'est bien le même, mais avec une hiérarchie. Hachem hu Elohim. C'est-à-dire que c'est par sa bonté que Dieu a donné de la science aux hommes, pour qu'ils aient l'impression de comprendre le monde. Mais en réalité, ils ne comprennent pas les relations. Il y a une herméneutique de la Torah, il y a des règles logiques, nous les disons tous les matins dans la prière. C'est les 13 règles de Rabbi Ishmael. La seule qui a un rapport avec la science, c'est la première, Kal vachomer. Tout le reste, c'est des relations, et des relations particulièrement singulières. S'il y a un verset qui dit ça, un autre qui dit ça, s'il y en a un deuxième qui dit comme le premier, mais c'est la relation ça. Et encore, on est très libre pour interpréter ce que ça dit. Ça parle d'une relation. Et étudier une page de Talmud, c'est la revivifier. C'est lui redonner une existence. Elle n'est plus la même, ni par elle-même, ni pour moi, une fois que je l'ai étudiée. Ça bouge. L'occidental a peur de tout ce qui bouge. Nous ne soyons pas comme ça, sachant que chez les Juifs, ce qui bouge, c'est le limoud, qui est sans fin. Et par conséquent, nous sommes beaucoup plus proches de Dieu. Non pas en démontrant des théorèmes, ce qui d'ailleurs n'est pas interdit, mais en faisant en sorte que les relations entre les hommes, entre moi et ma femme, entre moi et mes enfants, entre nous tous ici, soient plus intelligentes, plus riches, plus proches de la volonté divine qu'elles ne l'étaient avant notre réunion.
Le rab a un cours. Je crois que...
Moi j'ai une question.
Thank you.
à Dany qui pose une question.
D'abord, j'ai une question de compréhension. Alors, pourquoi est-ce que Hanouka passe? Donc ça, c'est la question parmi toutes les... Les deux. Alors, Purim, je laisse de côté, mais pourquoi Hanouka passe? Parce que Purim, c'est pas tout à fait la même chose. Mais parce que Purim, c'est le seul qui n'a pas pour enjeu le temple. Donc, Purim n'a pas le temple pour enjeu. Tous les autres de la liste, si à mon souvenir, de Ta'anit Esther, ont pour cadre la défense, la reconquête du temple. Alors, on comprend que, et on comprend d'autant mieux que Purim va s'accepter que le temple est détruit et qu'on n'a pas besoin du temple pour Purim, mais précisément. Tandis que, pourquoi Hanouka passe?
C'est une bonne question. C'est-à-dire, il y a une idée, c'est la réponse à la chose que tout le monde donne, c'est-à-dire que Hanouka, c'est c'est ce qu'en fait on a voulu commémorer, c'est-à-dire que de la même manière qu'on aurait changé en fait la signification de Purim qui était quelque chose significatif. Disons qu'il y aurait eu, disons dans la théorie que j'ai voulu dire, qu'il y aurait une signification de Purim avant le temple, à l'époque du temple ou avant le temple, qui était en fait une étape de reconstruction vers le temple, qui a été ensuite changée avec l'histoire du Ta'anit Esther. La même chose avec Hanouka, c'est qu'on aurait changé en fait la signification de Hanouka comme étant maintenant quelque chose qui, ça veut dire chacun allume la Hanoukia dans sa maison et en fait il reconstitue le temple chez lui à la maison, etc. Donc, ça serait ça l'idée, quoi. C'est un peu faible, hein. J'imagine que votre question est meilleure que ma réponse.
Et donc la deuxième chose, il y a
avec la destruction du second temple. Donc là, s'il y a rupture, ça veut dire que il y a définitivement exil au moment de la rupture, de la destruction du second temple. Donc là, ça plaît plutôt. Alors,
je ne sais pas si c'est l'exil qui s'est fait dans ta vie, mais je ne pense pas que c'est ce qui fait en fait le moteur. C'est un des thèmes de la vie. C'est sûr que l'exil, c'est un thème de la vie. Je ne sais pas, j'ai oublié ça, c'est un thème de la vie aussi. C'est un thème par rapport à la transcendance. Mais ce n'est pas le thème. Voilà, c'est ça ce que j'aurais dit. C'est pas le thème.
C'est quoi le thème alors?
J'en sais rien, c'est ce que je dis, je ne sais pas. Mais il faut. Qu'est-ce que je dis? C'est quoi le moteur? C'est la même chose, simplement. Il faut déjà, je pense que l'idée, c'est déjà de comprendre, d'essayer de réfléchir. Et pour moi, c'est déjà tout le jargon. Il y a plein de. Mais je pense qu'il voilà, y a quelque chose d'autre. Voilà, j'arrête là. Parce qu'il y a le truc, c'est que moi j'ai pas fait. Voilà. Il y a encore du temps pour venir. Il y a encore du temps.
Oui, il y a encore du temps, c'est 8h.
Ok.
Juste, peut-être Sandra dire un petit mot en tant que président.
Si. Juste alors en tant que présidente de politique, je tiens à remercier chaleureusement tous les participants à ce beau moment passé. Particulièrement, je remercie Rava Vigès pour son intervention et j'espère que à travers Alexandre, en fait, il réussira à mettre aussi sur papier tout ce qui a été dit, tous ces échanges. Parce que voilà, je suis très émue et puis très touchée d'avoir participé à cet après-midi. D'études, merci.
Merci beaucoup, je t'attends à bien. Juste avant qu'on se quitte, prochain rendez-vous, mardi 24 septembre, à 8h15, c'est Nicolas Lé qui viendra. 8h. Sur le sionisme dans les têtes. Vous recevrez d'ailleurs bientôt, vous allez arriver comme moi. Mille merci à tout le monde d'avoir assisté à cette présence et mille merci à Olivier.